bonjour à vous tous, à vous toutes. Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Comprendre l'humain avec ou sans un doc en psycho. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui explique comment fonctionne la thérapie et plus largement la guérison, l'évolution de l'humain en général. Donc, un gros sujet. On va parler de la reconsolidation de la mémoire. J'en avais glissé un mot dans mon épisode sur le trauma, mais je pense que cette notion qui est tellement centrale pour moi en thérapie mérite un épisode complet. On va parler de comment fonctionne la mémoire, comment se créent tous ces petits automatismes qui sont très utiles, hein? Sans eux on serait un peu perdu pour naviguer notre vie, mais qui parfois nous jouent des tours et nous rendent la vie difficile. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on agit d'une manière quand c'est pas comme ça qu'on veut agir? Pourquoi est-ce qu'on a peur quand on sait que la situation n'est pas dangereuse? Pourquoi est-ce qu'on se fâche, qu'on crie ou qu'on se tait quand c'est vraiment pas ça qu'on veut faire? Pourquoi et comment se crée ce genre d'automatisme? Comment ça fonctionne au niveau du cerveau et comment on peut faire pour les transformer? Avant tout, il faut comprendre la notion de schéma. Et ici, quand je vais parler de schéma, je ne parle pas d'un pictogramme, d'une image, je parle vraiment d'un circuit neuronal dans le cerveau. Les humains, pour s'adapter à notre vie, on va créer ce qu'on appelle de la mémoire implicite, c'est-à-dire des choses dont on se souvient, mais inconsciemment, comme de faire du vélo ou de prendre une tasse quand j'ouvre l'armoire à tasse. La mémoire implicite nous fournit plein de petits automatismes qui nous aident à vivre. Sans elle, on serait à tout instant comme un nouveau-né qui vit sa première seconde de vie, submergé par les différents stimuli, la lumière, les sons, les sensations. Donc, on en a vraiment besoin de cette mémoire implicite-là. Dans une forme plus avancée, la mémoire implicite crée ce qu'on appelle en psychologie les schémas. Et un schéma, ça comprend deux choses, les attentes, ce qui va se passer, et la réponse, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, une attente, ça peut être « si je me sens perdue, les gens peuvent m'aider ». Et ça, ça a été créé parce que je l'ai vécu. Parce que quand j'étais enfant, adolescente, quand je me sentais perdue, il y avait de l'aide autour de moi. Donc, ça devient mon attente implicite. Et ma réponse que j'ai développée, c'est peut-être appeler à l'aide, exprimer ma vulnérabilité aux personnes autour de moi. On pourrait qualifier ce schéma d'adapté parce que la plupart du temps, c'est adapté d'exprimer sa vulnérabilité puis de se laisser aider par les autres quand on se sent perdu. Mais ici, j'aimerais faire une petite nuance parce qu'un schéma est toujours adapté en fonction du contexte dans lequel on est. Par exemple, dans un régime totalitaire ou dans une relation violente, exprimer sa vulnérabilité, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. On va aussi parler de schéma mal adapté, hein, puis c'est encore toujours mal adapté en fonction du contexte. Par exemple, l'attente de « si je cesse de répondre aux besoins des autres, ils vont s'éloigner de moi » et la réponse « ah ben je vais aider les autres et je vais me couper de mon propre ressenti, de mes propres besoins », ben ça c'est un schéma qui est la plupart du temps mal adapté parce qu'en faisant ça, on se coupe de nos besoins, on se pousse à bout, on s'épuise puis on est malheureux dans nos relations. Autre schéma qui est souvent mal adapté, c'est d'avoir l'attente « s'ils voient qui je suis vraiment, ils vont me rejeter ». Et là, la réponse à ça, c'est peut-être performer en présence des autres, parler beaucoup, faire le clown, être dans la séduction, ou au contraire, éviter d'être vu, me figer pour être invisible. Autre exemple, si je montre ma colère, l'autre va s'effondrer et je vais être toute seule. Ça, c'est l'attente et la réponse, ça peut être de refouler ma colère, la minimiser, l'invalider intérieurement, la rationaliser. Et même si je vais les appeler schémas mal adaptés, j'aimerais préciser que je ne les juge vraiment pas, ces schémas-là. Parce qu'en fait, ils ont probablement été au service de la vie dans le passé. Parce qu'ils ont été créés dans le passé. Et à ce moment-là, ils étaient probablement très adaptés au moment de leur création. C'est simplement qu'ils ne le sont plus aujourd'hui et qu'ils font souffrir les personnes qui les portent. Dans une de ces vidéos, Tori Old, que je vous recommande vraiment, c'est une vulgarisatrice scientifique en psychologie que j'admire beaucoup. Je vous recommande sa chaîne YouTube. Elle cite son propre père, qui est lui aussi psychologue, et il dit ceci. « Les patients n'arrivent pas avec leurs problèmes, mais ils arrivent avec leurs solutions. » la solution de survie qu'ils ont trouvée dans le passé. Refouler sa colère était probablement une très bonne solution si on a grandi avec un père dépressif qui était à deux cheveux de s'effondrer. Et j'aimerais ajouter que ces schémas correspondent réellement à des circuits neuronaux complexes qui s'allument de manière automatique et inconsciente la plupart du temps. Donc, si vous avez de la difficulté à changer des habitudes malgré vos efforts, c'est probablement pas un manque de volonté. C'est simplement que vous avez besoin de guidance pour aller vers cette fenêtre où le changement est possible, où la reconsolidation de la mémoire est possible. Le but de la thérapie ou des autres processus de guérison, la vie en elle-même étant incluse dans ces processus-là, c'est donc de changer les schémas mal adaptés. Et il y a deux manières de travailler avec ces schémas-là. On peut viser un changement incrémentiel ou transformationnel. Incrémentiel, ça veut dire qu'on va créer un schéma alternatif au schéma mal adapté. Ici, vous pouvez imaginer une rivière qui va représenter notre schéma mal adapté, celui qu'on veut changer. Cette rivière a été créée dans une réponse de survie, d'adaptation à une situation difficile, voire traumatique. Après plusieurs années, l'eau coule, après plusieurs années de pratique, l'eau a creusé son sillon et le courant, de plus en plus fort, retourne à se tracer facilement. La transformation incrémentielle revient à créer un barrage et à détourner ce cours d'eau. Ça marche, mais ça demande de l'effort à chaque fois. À chaque fois, l'eau veut retourner dans la rivière mal adaptée et la personne doit faire un effort conscient pour utiliser le nouveau chemin. Certaines thérapies fonctionnent un peu comme ça. Par exemple, à la place de la pensée « si les autres voient qui je suis vraiment, ils m'aimeront pas », on va substituer une pensée plus rationnelle, plus vraie. Certaines personnes ne m'aimeront pas telle que je suis et d'autres m'aimeront telle que je suis. À chaque fois que la pensée irrationnelle survient, on détourne le cerveau vers la nouvelle pensée, on détourne la rivière vers le nouveau chemin. Jusqu'au début des années 2000 et même avant, les recherches ont commencé en 90, on pensait que c'était la seule voie de la guérison. On pensait qu'une fois que le cerveau avait appris, il ne pouvait pas désapprendre, qu'on ne pouvait qu'ajouter des nouveaux apprentissages. Mais les recherches, notamment de Bruce Aker, et il y a plusieurs autres auteurs, je vais nommer celui-ci qui est comme un des principaux, montrent une autre voie, celle du changement transformationnel. Ces recherches-là montrent que ce qui tient le schéma mal adapté en place, le circuit neuronal, et ici je vous invite à imaginer là, des neurones qui se connectent entre eux, donc ce qui tient ça ensemble, ce sont des protéines. Et que ces protéines peuvent, entre guillemets, s'ouvrir, offrant alors une période de plasticité cérébrale pendant laquelle le schéma peut être transformé ou même effacé. Et c'est ça qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire, et c'est une avancée immense en psychologie. Ici, au lieu de détourner la rivière, on en crée carrément une nouvelle, où on découvre une autre rivière plus saine, plus profonde, plus régulée, qui va absorber naturellement l'eau de la première, celle qui est issue d'une réponse de survie. Alors évidemment, en tant que thérapeute ou simplement en tant qu'humaine qui veut évoluer, cette reconsolidation de la mémoire est alléchante. Elle propose une manière de guérir qui est plus profonde et plus facile à maintenir dans le temps. La question devient, comment on fait pour ouvrir cette fenêtre de plasticité cérébrale, cette fenêtre de reconsolidation? Il y a deux éléments. Deux clés qui doivent être tournées en même temps pour ouvrir la fenêtre. Il faut 1. Réactiver le schéma mal adapté et 2. Le contredire en même temps. La personne va ressentir son schéma en même temps qu'elle va vivre une expérience qui le contredit. Par exemple, si mon schéma est « si je montre qui je suis vraiment, l'autre va me rejeter, je dois donc m'effacer et ne pas être vue », je vais ressentir ce schéma-là et en même temps, je suis vue par ma thérapeute, je vois dans ses yeux qu'il n'y a aucun jugement et qu'elle reste là. Ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, c'est que le circuit neuronal du schéma sur lequel on travaille s'allume en même temps qu'un autre circuit neuronal qui contredit le premier. Et ça, ça crée une incohérence dans le cerveau, un mismatch. Et le cerveau, il n'aime pas ça, les incohérences, donc il va s'activer pour résoudre le problème. À ce moment-là, des agents chimiques vont être sécrétés et ils vont ouvrir les protéines qui tiennent le schéma mal adapté ensemble, créant ainsi une fenêtre de plasticité cérébrale qui va durer environ 5 heures. Hein? Et pendant ce temps, le cerveau a la possibilité de faire une sorte de mise à jour. Le vieux programme informatique créé dans l'enfance, « je ne dois pas être vue, je dois me cacher », est ajusté à la nouvelle réalité, « je suis un adulte, je peux être vue, je suis en sécurité ». Maintenant, je vais expliquer les deux étapes, les deux clés, une à la fois. La réactivation du schéma et sa contradiction. Alors tout d'abord, la première étape, il faut réactiver le schéma. Mais ici, j'aimerais préciser que c'est pas obligé que ce soit à 100%, même que c'est mieux que ce soit pas à 100%. De réactiver un schéma traumatique à 100%, ça peut être retraumatisant, c'est pas au service. Ça peut être seulement à 5% ou même à 2%. J'ai une de mes superviseurs qui me dit « on n'est pas obligé de plonger dans le lac, on peut seulement tremper le bout des orteils ». Et elle a raison. L'important, ce n'est pas l'intensité de l'activation, mais c'est la complétude de cette activation-là. Autre point que j'aimerais préciser, c'est pas assez d'y penser. Il faut le sentir. Peut-être que c'est votre cas ou que vous connaissez des personnes comme ça. Il y a des gens qui comprennent leur fonctionnement, leur pattern, ils savent d'où ça vient, de quelle blessure ça vient, etc. Mais rien ne change. Ça, c'est parce que l'activation est uniquement cognitive, c'est-à-dire dans des régions un peu plus hautes dans le système nerveux. Et ça, c'est pas suffisant. Il faut faire le tour de l'expérience humaine. Parce qu'il faut que le schéma soit allumé au complet. Et l'expérience humaine, une manière de la voir, on peut dire qu'elle est composée de 6 dimensions. Les sensations, les émotions, les pensées, les images, le sens, hein, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là, qu'est-ce que ça m'informe sur moi, sur le monde, les tendances à l'action, comme par exemple avoir envie de fuir, avoir envie de crier, avoir envie de frapper. Alors c'est pour ça qu'en thérapie, je vais poser des questions. Je vais demander, c'est comment dans ton corps? Est-ce qu'il y a un mouvement que ton corps a envie de faire? Ok, il y a une tension, qu'est-ce que cette tension-là te dit? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'il y a une image qui te vient en tête? Qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris sur toi, sur la vie, sur les relations? Et vraiment, je pose ces questions-là, c'est pas pour combler le temps de la séance, mais c'est vraiment pour permettre au schéma de s'allumer au complet. Et aussi, en faisant ça, je m'assure que la personne ne fait pas seulement en parler, mais que c'est incarné, que c'est senti. Parce que si c'est simplement cognitif, ça ne marchera pas. Certaines approches en psychothérapie aident à faire ça, aident à activer le schéma d'une manière complète et sentie. Ce sont les approches qu'on nomme « bottom-up », qui travaillent du bas vers le haut. C'est-à-dire en invitant les informations plus profondes dans le système nerveux à monter vers la conscience. Comme si on invitait le cerveau du bas, qui est un peu la région de notre cerveau qui est souvent ressentie comme étant notre corps et nos émotions, à parler à notre cerveau du haut, notre conscience. Pour ce faire, on va pratiquer une posture d'écoute et de curiosité. Ça demande un certain lâcher-prise. Souvent, les personnes que j'accompagne souffrent et veulent trouver une solution, analyser, être efficace, puis je comprends ça. Quand on souffre, on veut que ça arrête. Cependant, la manière la plus efficace de le faire passe pas par le mode qu'on connaît dans nos sociétés comme étant le plus efficace. Ça passe pas par l'analyse, par les réflexions, parce que les informations dont on a besoin pour activer le schéma et le comprendre plus profondément se trouvent dans le cerveau du bas, qui, lui, s'exprime pas de la même manière. Il est pas logique, le cerveau du bas. Il parle en sensations, en images, en mouvements. Alors, un premier objectif que j'ai avec plusieurs personnes que j'accompagne, c'est de rétablir cette conversation entre le cerveau du bas et le cerveau du haut. Et au début, c'est normal, on ne comprend pas toujours le langage de notre cerveau du bas. Hein, on a des sensations, on sent quelque chose, mais on n'est pas capable de tirer du sens de ça. Mais en se pratiquant, des sensations qui sont très subtiles peuvent devenir significatives. Par exemple, une personne, on est en train de travailler un de ses schémas et elle sent l'envie de bouger ses jambes. Elle ne comprend pas pourquoi, mais on reste avec cette envie, on la laisse exister et finalement, on comprend que cette envie-là, c'est une envie de fuir. Et ça, c'est une des dimensions du schéma. J'avais envie de fuir. Le travail des parties, entre autres avec le système familial intérieur, une approche pour laquelle j'ai déjà fait un épisode, vous irez voir, cette approche-là aussi favorise un travail du bas vers le haut, parce qu'on va donner un visage à nos schémas, ce qui va aider à les écouter. Parce que c'est plus connu pour le cerveau, notre cerveau est habitué à écouter des humains. Alors, ce qu'on fait avec cette approche-là, c'est qu'on prend nos émotions, nos schémas, et on les visualise comme un petit être humain. On peut par exemple visualiser l'enfant qui recevait les critiques de maman, puis entendre qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle ressent, de quoi elle aurait eu besoin. Il y a plusieurs approches, je ne vais pas toutes les nommer, mais j'aimerais citer l'intelligence relationnelle, la thérapie sensorimotrice, la thérapie de la cohérence, justement créée par Bruce Hacker et Laurel Hurley, et plusieurs autres approches qui favorisent le travail du bas vers le haut. L'important, c'est vraiment que vous arriviez à activer votre schéma au complet, sans être envahi par lui, mais en le ressentant. La deuxième clé pour ouvrir la fenêtre de reconsolidation de la mémoire, c'est la contradiction du schéma. Il faut que la personne elle ait une expérience ou une information contradictoire et qu'elle la ressente. Il faut qu'elle ressente à la fois la solitude vécue dans l'enfance et la présence d'un adulte régulé. Ça peut être le thérapeute ou la personne elle-même qui est aujourd'hui un adulte régulé qui peut être en lien avec, disons, son enfant intérieur. Il faut qu'elle ressente à la fois la douleur de l'abandon et la compassion, le vide intérieur et un amour calme et confiant. Et ici, il n'y a pas de recette précise, mais la personne doit vivre en même temps le schéma et quelque chose qui le contredit. En thérapie, il y a plusieurs manières de faire ça, mais je vais ici les classer en deux groupes. On peut faire soit un travail intérieur entre la personne et ses parties, ou un travail relationnel entre la personne et la thérapeute. Donc, soit la personne entre elle-même en lien avec la partie d'elle qui porte la blessure, par exemple, en ayant une sincère compassion pour elle quand elle était enfant. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faciliter un dialogue entre la partie blessée et la personne elle-même. On va vraiment utiliser l'imagination. On peut même retourner dans une scène du passé pour rejoindre l'origine du schéma. Par exemple, on peut retourner dans la cour d'école où la petite fille se faisait intimider et la protéger, l'accueillir, l'aider à s'affirmer aussi. Mais ce que ça fait sur le plan neurologique, c'est que ça active à la fois la blessure, qui est la partie ou la scène, et une expérience contradictoire. Parce que la partie, elle n'est plus seule, elle reçoit de l'écoute, elle reçoit de la protection, de l'amour, de la compassion. L'autre moyen est davantage relationnel. On va travailler sur la sécurité ou l'insécurité qui est vécue dans le lien thérapeutique. Si une personne a tendance à avoir peur d'être jugée par les autres, bien, il est possible qu'elle ait peur que je la juge, même si son cerveau du haut sait que je la jugerai pas parce que je suis sa psychologue, elle m'a choisie, elle a confiance en moi. Son cerveau du bas continue de porter cette attente implicite. Ici, le travail consiste à mettre en lumière les patterns et à voir est-ce qu'il est possible de vivre une expérience différente au sein même de la thérapie. Pour continuer avec le même exemple, disons que cette personne qui a peur d'être jugée par les autres, à un moment donné, se sent vraiment en sécurité avec moi et a vraiment l'impression que je ne la juge pas. Alors là, je vais l'aider à ressentir cette nouvelle expérience contradictoire. Je vais peut-être lui dire « Ok, qu'est-ce que tu vois dans mon visage ou dans le son de ma voix ou autre chose qui t'indique que je t'écoute avec ouverture, que je ne te juge pas? Ah ben, ton visage a l'air détendu puis tu as l'air touché par ce que je dis. » Oui, en effet, je suis touchée, puis c'est comment dans ton corps quand tu vois ça que je suis détendue et touchée? Ben, je suis calme, comme si mon ventre se desserrait. En faisant ça, ce que je fais, c'est que j'aide la personne à pleinement ressentir l'expérience contradictoire. Un peu comme tantôt avec le schéma mal adapté qu'on fait le tour de l'expérience humaine, je vais faire la même chose avec l'expérience contradictoire. Et habituellement, à ce moment-là, la rivière plus profonde, plus naturelle, commence à couler. Et éventuellement, elle va emporter la rivière du schéma mal adapté. La thérapie, c'est vraiment pas le seul moyen de réaliser cette contradiction. Il y a sûrement plusieurs autres moyens, mais je vais vous en nommer deux autres, les relations et les expériences de vie. On dit souvent que les blessures relationnelles se guérissent en relation. Autrement dit, un des meilleurs remèdes à une enfance difficile où on a peut-être vécu des blessures d'attachement, de la négligence, de la maltraitance, ben c'est une relation sécure à l'âge adulte. Selon moi, ça a même le potentiel d'être plus puissant qu'une thérapie. Mais encore, faut-il que la personne soit capable d'en prendre conscience. Et pour favoriser ça, Terry Hall propose un truc qui augmente les chances de réaliser la contradiction. Et ce qu'elle propose, c'est simplement d'écrire sur une feuille ou sur notre cellulaire une phrase qui résume notre schéma. Par exemple, la phrase pourrait être « Je dois être utile pour les autres, sans quoi ils vont m'abandonner » ou « Je suis seule et perdue, personne n'est là pour moi ». Et on la lit le matin et le soir. Et non, ça ne va pas renforcer notre schéma mal adapté parce qu'il est déjà pas mal au maximum d'ancrage qu'il pourrait être. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va le remettre en conscience et nous aider à repérer à quel moment c'est pas vrai. Imaginez une femme qui a le schéma selon lequel personne n'est là pour elle. Elle se lève le matin, elle lit sa petite phrase et elle voit son partenaire qui a préparé un café. Alors elle peut ressentir la contradiction entre les deux réalités. Lorsque la contradiction arrive, il faut prendre le temps de la ressentir. Pour créer une connexion négative dans le cerveau, c'est une fraction de seconde. Parce que notre système nerveux est bâti pour notre survie, donc quand il y a quelque chose de menaçant ou de négatif, ça prend une fraction de seconde et c'est appris. Pour une connexion positive, c'est plus long, c'est 20 secondes. Donc quand vous arrivez à ce moment de contradiction, quelque chose qui contradit votre schéma, on ralentit et on savoure au moins 20 secondes. L'autre chemin, c'est simplement de regarder dans nos expériences passées. Souvent, il y en a une qui va contredire notre schéma. Je vais vous partager une expérience personnelle ici. J'étais dans un stage de communication non-violente avec deux coéquipiers, peut-être qu'ils et elles vont se reconnaître, et on travaillait chacun notre tour, mais là c'était mon tour, on travaillait sur ma peur à l'idée de dire non à une personne. Et en parlant, évidemment, j'activais le schéma de cette peur. Et tout d'un coup, je me suis souvenue que récemment j'avais dit non à une personne et que ça s'était vraiment bien passé, même que ça avait renforcé notre lien. Parce que c'est vrai, quand on est authentique puis qu'on dit non, ben la personne elle avait davantage confiance que quand je disais oui, c'était un vrai oui. Et à ce moment-là, ma peur s'est dissoute instantanément. Moi et les personnes avec qui je travaillais, on était vraiment surprises de la rapidité avec laquelle mon système avait changé. Et j'ai compris seulement plusieurs années plus tard ce qui s'était passé. C'était la puissance de la reconsolidation de la mémoire. Et encore aujourd'hui, depuis ce jour, j'ai très rarement peur de dire non. Ou si la peur vient, elle retourne rapidement dans cette confiance que d'être authentique, ça renforce le lien. Petite précision ici, le but de la réconciliation n'est pas de créer des fausses croyances. On ne va pas essayer de croire que je suis en sécurité dans toutes les situations parce que c'est faux. Certaines situations sont dangereuses, sont toxiques, et de ne pas le ressentir, c'est un schéma mal adapté. Ce qu'on veut, c'est aider la personne à revenir dans le présent et laisser son système évaluer le niveau réel du danger en ce moment. Parce que c'est souvent ça les enjeux de santé mentale, croire qu'on est en danger quand c'est sécure, par exemple faire de l'anxiété avant de rencontrer un ami, ou croire qu'on est en sécurité quand on ne l'est pas, en entrant par exemple continuellement dans des relations où les personnes nous rabaissent. Avec la reconsolidation, on veut assouplir le système. Oui, il y a des dangers, mais il y a aussi la sécurité. Et même si on est actuellement dans une situation difficile, peut-être dans laquelle on rejoue des patterns d'enfance, il y a toujours au moins une chose qui est différente du passé. On n'est plus un enfant dépendant de ces géants qui sont les adultes. Il y a toujours au moins un adulte qui est là pour nous, et c'est nous-mêmes. En résumé, il est possible de vivre des transformations profondes et durables en thérapie et dans la vie en général. Et cette nouvelle vision issue des recherches du début du siècle, cette théorie de la reconsolidation de la mémoire nous permet de comprendre le mécanisme sous-jacent à ce genre de transformation. En ressentant à la fois le schéma mal adapté et sa contradiction, on peut ouvrir la fenêtre de la reconsolidation de la mémoire. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a mis des mots peut-être sur des expériences que vous avez vécues, inspirées dans votre cheminement. Pour moi, ça me guide à tous les jours avec les personnes que j'accompagne et avec moi-même. Merci à mes sources, aux chercheurs en psychologie Bruce Aker et ses collègues, à Tori Hall pour sa vulgarisation si fine et juste. Merci aussi aux personnes que j'accompagne, qui me guident et qui m'aident à approfondir ma compréhension de l'humain. Les pièces musicales que vous avez entendues sont The Morning Sun de Ben McElroy et Father Son Reworked de Christopher Galovan. Finalement, merci à vous qui m'écoutez. Sans vous, ce balado n'aurait pas de sens. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à me dire ce qui vous a inspiré, à m'envoyer des questions, des suggestions, soit directement en commentant l'épisode ou à l'adresse marise.damecourt.balado@commercialoutlook.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Comprendre l'humain, avec ou sans un DocumPsycho.